chapitre 45. Sans aucun doute, à partir de l'entrée, le sentier devient difficile à deviner. À vrai dire, il a même complètement disparu. La forêt s'est faite encore plus dense, plus écrasante. La pente sous mes pieds est de plus en plus raide, le sol entièrement couvert de ronces et de buissons. Sous le ciel, quasiment invisible entre les branches, il fait aussi sombre qu'au crépuscule. Les toiles d'araignée sont plus épaisses, l'odeur des plantes plus prenante, et le silence de plus en plus pesant, comme si la forêt voulait rejeter ces humains qui empiètent sur son territoire. Pourtant, les deux soldats, leurs fusils en bandoulière, continuent à avancer dans la forêt sans le moindre effort. Marchant d'un pas étonnamment rapide, ils gravissent les rochers, franchissent les fossés d'un bond, traversent habilement les fourrés pleins d'épines. Je m'efforce désespérément de les suivre, attentif à ne pas les perdre de vue. Ils ne s'assurent même pas que je suis toujours derrière eux. On dirait qu'ils testent mes forces, ma résistance. J'ai même l'impression qu'ils sont un peu fâchés contre moi, pour une raison qui m'échappe. Ils sont silencieux. Même entre eux, ils n'échangent pas le moindre mot. Ils continuent seulement à avancer droit devant eux, totalement concentrés, ouvrant la marche à tour de rôle. À force de garder les yeux fixés sur leur dos où les fusils oscillent avec un balancement de métronome, je finis par ressentir un effet hypnotique. Ma conscience se met à dériver, comme si elle glissait sur une surface verglacée. Mais je dois continuer à me concentrer sur une seule chose, ne pas me laisser distancer. Et je continue à avancer en silence, suant à grosses gouttes.
« On marche trop vite pour toi ?»
me demande soudain le costaud, d'une voix ferme et nullement essoufflée. « Non, ça va, je vous suis. »«
Tu es jeune et tu as l'air fort !»
dit le grand sans se retourner.
« On connaît tellement bien ce trajet qu'on ne se rend pas compte qu'on marche vite !» dit son compagnon comme pour se justifier. « Si notre allure est trop rapide pour toi, il vaut mieux nous le dire, on ralentira un peu. Mais en ce qui nous concerne, on préfère ne pas marcher plus lentement que nécessaire. Tu comprends ?»«
Si je n'arrive plus à vous suivre, je vous le dirai. » Je m'efforce de contrôler ma respiration pour ne pas parler d'un ton essoufflé et cacher mon épuisement aux deux soldats. « On a encore beaucoup de route à faire ?»«
Plus trop !» répond le plus grand. « On y est presque !» ajoute l'autre.
Mais je ne sais pas si je peux me fier à leurs propos. Comme ils l'ont affirmé eux-mêmes, le temps ici n'est pas un facteur très important. Nous continuons à avancer en silence un moment, mais leur marche n'est plus aussi forcenée que tout à l'heure. Je suppose que j'ai réussi le test. Je m'enhardis jusqu'à poser la question qui me brûle les lèvres depuis un moment. Est-ce qu'il y a des serpents venimeux dans cette forêt ?
Des serpents venimeux ?
Répète le plus grand des deux soldats. Celui qui porte des lunettes, sans se retourner. Il parle toujours en gardant les yeux fixés droit devant lui.
« Je ne me suis jamais posé la question. »« Il se peut qu'il y en ait, »
dit l'autre en se tournant vers moi.
« Je n'en ai jamais vu, mais il se peut qu'il y en ait. Ce ne serait pas gênant. »«
Ce qu'on veut dire, » ajoute le grand d'une voix légèrement lénifiante, « c'est que cette forêt ne te veut aucun mal. »«
Aussi, tu n'as pas à t'inquiéter des serpents venimeux. »
renchérit le costaud.
« Tu te sens plus rassuré maintenant ?»«
Oui. »«
Ni les serpents, ni les araignées venimeuses, ni les champignons vénéneux, rien de tout cela ne te fera le moindre mal, »
dit le grand, toujours sans se retourner. « Rien de tout cela. » Je dois être fatigué car rien de ce qu'il dit n'évoque d'image dans mon esprit.
« Aucun des habitants de la forêt ne va te faire de mal. On est au plus profond de la forêt ici. » « Rien ni personne, pas même toi, ne peut te faire du mal. »
Je ne comprends pas ce qu'il dit. L'épuisement et la sueur, joints à l'effet hypnotique de ce trajet monotone, empêchent mon cerveau de former la moindre pensée cohérente.
« Quand on était soldat, on nous a appris à ouvrir le ventre de nos ennemis à la baïonnette, » dit le costaud. « Tu sais comment on tue quelqu'un à la baïonnette ?»«
Non. » »«
Tu enfonces la lame profondément, d'un coup sec, et ensuite... » Tu tournes sur le côté. Ça déchire les entrailles de ton adversaire en petits morceaux, et il meurt dans des souffrances atroces. Mais si tu te contentes d'enfoncer la lame sans tourner, l'autre se relève aussitôt, et c'est lui qui te réduit en bouillie. Voilà comment on voulait nous faire voir le monde. »
Les entrailles ? Oshima m'a expliqué que c'était une métaphore pour les labyrinthes. Tout s'en mêle dans ma tête et forme des nœuds. Je ne parviens pas à distinguer les diverses pensées qui m'assaillent.
Tu comprends, toi, pourquoi les humains sont obligés de se faire des choses aussi cruelles les uns aux autres ?
Demande le plus grand des deux soldats. Non.
Moi non plus, reprend-il. Je n'avais aucune envie de déchirer les entrailles d'autres soldats, qu'ils soient chinois, russes ou américains. Pourtant, c'est dans ce monde-là que nous vivions. C'est pour ça qu'on a déserté. Mais je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus et que tu nous prennes pour des lâches. Bien au contraire, nous étions d'excellents soldats. Simplement, nous ne supportions pas d'être pris dans la spirale de la violence. Je ne pense pas que tu sois un lâche, toi non plus, n'est-ce pas ?
Je réponds avec franchise. Je ne sais pas très bien. J'essaie de m'endurcir face à la vie, c'est tout.
C'est important, dit le costaud en se retournant. Très important, d'essayer de devenir plus fort. Tu l'es déjà, on s'en rend compte tout de suite, dit le grand. Aucun autre garçon de ton âge n'aurait pu nous suivre jusqu'ici. Tu es courageux, renchérit l'autre d'un air admiratif.
Ils s'arrêtent de marcher en même temps. Le plus grand enlève ses lunettes, se frotte plusieurs fois les ailes du nez du bout des doigts, puis les remet. Ni l'un ni l'autre n'a l'air essoufflé. Et ils n'ont pas transpiré une seule goutte.
« Tu as soif ?»
me demande le plus grand. « Un peu. » En réalité, je meurs de soif. J'ai jeté ma gourde avec le thé en sachet qu'elle contenait. Le grand soldat prend la gourde d'aluminium suspendue à sa ceinture et me la tend. Je bois quelques gorgées d'une eau tiédasse. Je sens le liquide humecter les moindres recoins de mon corps. J'essuie le goulot avant de lui rendre le récipient. « Merci, » dis-je. Le grand hoche la tête en silence.
« On est arrivé sur la crête, » dit le costaud. « On va descendre d'une traite. Fais attention de ne pas tomber, » me prévient le grand.
Nous entamons la descente en suivant avec précaution le sentier glissant. Une fois parvenus à la moitié de ce long raidillon, nous prenons un large tournant et traversons la forêt. Un autre monde apparaît en contrebas. Les deux soldats s'arrêtent et se retournent vers moi. Ils ne disent rien, mais leurs regards intenses parlent pour eux. « C'est ici, » disent-ils. « Voilà le lieu où tu dois entrer seul. » Je me suis arrêté moi aussi et regarde le paysage qui s'étend sous mes yeux. Une petite ville est blottie dans une sorte de cuvette peu profonde. Elle suit les contours naturels du terrain. Je ne sais pas combien de gens vivent là, mais d'après la taille de ce vallon, ils ne peuvent pas être très nombreux. Il y a plusieurs petites avenues, longées de quelques rangées d'immeubles, tout aussi petits. On ne voit personne nulle part. De toute évidence, ces bâtiments n'ont pas été construits avec un souci d'esthétique, mais dans le seul dessein de protéger efficacement les habitants de la pluie et du vent. L'endroit n'est pas assez grand pour mériter le nom de ville. Il n'y a pas de magasins, pas d'équipement public, pas d'enseigne ni de panneaux de signalisation. Juste quelques constructions toutes simples, toutes du même aspect et de la même taille, regroupées ici, on ne sait pourquoi. Aucun immeuble n'a de jardin, et on ne voit pas un seul arbre dans les rues, comme si la forêt environnante suffisait largement en la matière. Une brise légère traverse la forêt, fait trembler les feuilles autour de moi. Ce bruissement anonyme forme des tourbillons sur mon cœur. Je pose une main sur un tronc d'arbre et ferme les yeux. Ces tourbillons ressemblent à un présage dont je n'aurais pas déchiffré le sens. Une langue dont je ne comprendrais pas un mot. Je rouvre les yeux, contemple à nouveau le monde inconnu qui s'étend en contrebas. Les soldats, debout à mi-pente, regardent eux aussi la ville. Et je sens de nouvelles rafales de vent tourbillonner sur mon cœur. Les signes se recomposent. Et les métaphores se transforment. J'ai l'impression de m'éloigner de moi-même. Mes sensations fluctuent. Je deviens un papillon qui volette au-dessus des frontières du monde. Par-delà le bord du monde, il est un espace où le vide et la substance se superposent, où passé et présent forment une boucle continue sans commencement ni fin. Des signes que nul ne peut déchiffrer, des accords que personne ne peut entendre, y flottent au hasard. Je reprends mon souffle. Je n'ai pas encore rassemblé mes esprits, mais au moins, je n'ai pas peur. Les soldats se remettent en marche sans un mot et je les suis. Au fur et à mesure que nous dévalons la pente, la ville se rapproche. Une petite rivière protégée par une digue de pierre longe l'avenue principale. J'entends un agréable bruit d'eau, une belle eau, limpide. Tout est simple et douillet. Ici et là, on voit des poteaux électriques avec des fils tendus de l'un à l'autre. Tiens, l'électricité arriverait donc jusqu'ici? Il me semble que l'harmonie en est soudain rompue. Au-dessus de la ville, entourée de hautes haies de verdure, le ciel est toujours couvert de nuages gris. Les soldats et moi avançons dans l'avenue, sans croiser âme qui vive. Un silence mortel règne sur les alentours. Peut-être que les habitants sont tapis dans leurs maisons, retenant leur souffle en attendant que nous ayons disparu. Les deux soldats me conduisent jusqu'à une construction qui ressemble étrangement à la cabane d'Oshima, comme si l'une avait servi de modèle à l'autre. Il y a un perron devant l'entrée, avec une chaise dessus, et aussi une cheminée sur le toit. Mais le salon est séparé de la chambre et il y a une salle de bain. Et l'électricité! Un réfrigérateur trône dans la cuisine. Un vieux modèle de chez Toshiba, pas très grand. Et une lampe électrique au plafond. Et même une télévision. Une télévision? Dans la chambre, je découvre un lit à une place, fait au carré.
« Tu dois rester là le temps de te remettre, » dit le costaud. « Ce ne sera pas très long. Comme on te l'a dit tout à l'heure, le temps n'est pas un problème ici, » dit le grand. « Pas du tout un problème, » renchérit le costaud.
« Mais d'où vient l'électricité ?»
Les deux soldats se regardent. « D'une petite éolienne qui en produit au fond de la forêt, dans un endroit toujours venteux, » explique le grand. « C'est compliqué de vivre sans électricité, non ?» Pas d'électricité, pas de frigo. Pas de frigo, pas de conservation des aliments, ajoute le costaud. On peut se débrouiller sans, dit le grand. Mais c'est tout de même plus pratique. Si tu as faim, serre-toi dans le frigidaire. Il n'y a pas grand-chose toutefois, dit le costaud. Pas de viande, pas de poisson, pas de café, pas d'alcool, dit le grand. C'est un peu pénible au début, mais on s'y fait. Mais il y a des œufs, du fromage et du lait, dit le costaud, parce qu'il faut un minimum de protéines animales. On ne peut pas se procurer ce genre de choses ici, explique le grand. Alors, on va aller chercher ailleurs, et on fait du troc.
Du troc?
Le grand hoche la tête. Mais oui, on ne vit pas en autarcie complète. On n'est pas tout seul ici. Tu t'en rendras compte petit à petit. Ce soir, quelqu'un viendra te préparer à manger, dit le costaud. Et d'ici là, si tu t'ennuies, tu n'as qu'à regarder la télévision.
La télé fonctionne?
Je ne sais pas ce qui passe en ce moment, dit le grand d'un air embarrassé, puis il penche un peu la tête et regarde son compagnon. Le costaud incline lui aussi la tête, l'air dubitatif. Je ne connais pas trop la télé. À vrai dire, je ne la regarde jamais. On en a mis une en se disant que cela pouvait être utile pour les nouveaux venus, explique le grand. Ils doivent bien diffuser quelque chose, dit le costaud. « Bon, commence par te reposer un peu, » dit le grand. « Nous, on doit retourner à notre poste. »«
Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. »«
Oh, ce n'était pas bien compliqué, » dit le costaud. « Tu as des jambes plus solides que la plupart des autres. Beaucoup ne parviennent pas jusqu'ici sur leurs pieds. On est obligé de les porter. Avec toi, ça a été facile. »«
Tu as dit que tu devais voir quelqu'un ici, si je me rappelle bien, »
dit le grand.
« Oui.
Je pense que tu vas rencontrer cette personne, » ajoute-t-il en hochant la tête plusieurs fois. « Le monde est petit. Ce monde-ci, en tout cas. »« J'espère que tu vas t'habituer rapidement, » dit le costaud. « Une fois que tu seras habitué, tout sera plus simple. »«
Merci mille fois. »
Ils se mettent tous les deux au garde-à-vous, me font un salut militaire, puis ils remettent leur fusil en bandoulière et sortent. Ils traversent l'avenue à pas rapide et s'en vont reprendre leur poste.
Sans doute doivent-ils garder cette fameuse entrée nuit et jour.